Religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Raconter la saga de l'humanité, de la préhistoire à nos jours, avec pour témoin et narrateur un jeune homme immortel de 25 ans, c'est à cet immense voyage romanesque et historique que nous convie l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt qui publie chez Albin Michel « Paradis perdu, tome 1 de la traversée des temps », une traversée en 8 tomes et pas moins de 5000 pages. Éric Emmanuel Schmitt est notre invité. Et puis, l'histoire de l'humanité est en fait d'humains, gros plan dans cette deuxième partie de l'émission avec l'essayiste et écrivain Mathieu Terrance sur l'envie, un des 7 petits ouvrages de la collection Les 7 péchés capitaux que publient les éditions du Cerf alors qu'a commencé cette semaine chez les chrétiens la période du carême, une collection qui raconte à sa façon une autre histoire de l'humanité. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour.
Bonjour.
La presse salue l'œuvre titanesque dans laquelle vous vous êtes lancé avec bonheur, comme toujours, j'allais dire. Ce projet d'écrire une grande synthèse historique, vous le mûrissiez depuis votre agrégation quasiment de philosophie. Entre-temps, vous êtes devenu dramaturge, écrivain, 28 livres, trentaine de pièces, traduit en 45 langues. Vous avez aujourd'hui 60 ans, alors c'est l'âge de la maturité, l'âge où on a accumulé un certain nombre de savoirs, il en faut pour ce livre. C'était le moment de l'écrire?
Oui. Depuis des années, je m'en voulais de pas écrire ce livre et je me vivais comme un raté, comme quelqu'un qui avait eu une illumination à 25 ans. Parce qu'à 25 ans, j'étais capable d'avoir l'idée de ce personnage qui traverserait l'histoire et qui serait aussi un acteur des grandes mutations historiques. J'étais capable d'avoir l'idée, mais j'étais pas capable de réaliser ce projet parce que il supposait effectivement des années de lecture, beaucoup de savoir et puis la maîtrise de l'art romanesque, la maîtrise de l'écriture. Et alors ça, c'est quand même le bonheur de la maturité, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je me suis assis et le livre a commencé à sortir comme les autres, tout à fait naturellement, comme si c'était un enfant dont j'accouchais.
En fait, vous êtes comme Racine, quoi. Il fallait juste avant tout préparer. Et l'écriture après n'est que finalement un aboutissement.
Comme disait Racine, ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire.
C'est ce que vous avez fait.
Ouais.
Bon, vous, c'est pas une tragédie, mais enfin bon, l'histoire d'humanité, elle est aussi faite de tragédie. Alors, vous auriez pu être comme un historien, effectivement, raconter la grande saga, l'Homo sapiens, etc. Vous avez choisi donc le roman. Qu'est-ce qu'apporte de plus le roman, le fait de raconter l'histoire de l'humanité à travers le regard d'un jeune homme immortel, et bien sûr on reparlera de l'immortalité, d'un jeune homme immortel qui va regarder le monde, y participer aussi, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'avoir le travail d'un historien classique?
Ah ben, le roman apporte l'accès immédiat au monde dont on parle, c'est-à-dire que le roman ne donne pas des informations, le roman raconte une histoire sur le fond d'un monde qui est un monde qui a disparu, mais qui dans le roman n'a pas disparu, qui a la même densité que le monde contemporain. Le roman apporte la chair, le roman apporte l'émotion, le roman apporte les sensations. Pour moi, le roman, c'est le contraire des ruines. Quand on veut connaître le passé. Parce que quand on se promène dans des ruines, oui, on a fugitivement l'impression qu'on touche quelque chose qui a vécu, mais c'est détruit. Le roman, c'est une renaissance de la ruine. Et le roman nous met de plein pied avec le passé. Et ça, c'est vraiment la force indéniable du roman. Bien sûr que je suis pas en train de dire que c'est supérieur à l'histoire, au travail historique ou au travail d'essayistes ou des sciences humaines, mais quand ça se nourrit de ce travail-là, ça apporte simplement la vie.
En fait, Noam incarne la vie.
Ben, je crois que quand on lit ce livre, on peut se retrouver comme nos ancêtres 8000 ans avant notre ère. On peut se retrouver dans ce rapport à la nature, une nature abondante, généreuse, très peu d'humains, un paysage qui n'a pas été modifié par l'homme, un rapport aux animaux totalement différent. Je crois que le roman abolit la distance entre le lecteur et le héros ou le narrateur du roman. Ça a toujours été la force du roman. Moi, quand je lis un roman russe, je suis russe. Je lis un roman de femme, je suis une femme. Je me dis que, et je le vis dans l'écriture, je plonge dans des temps et je suis de plein pied dans ces temps.
On a quand même le sentiment que Noam, donc ce jeune homme immortel, c'est un peu vous quand même, non?
Bah, comme on va cohabiter pendant des pages et des pages, vu que j'ai prévu un roman d'à peu près 5000 pages, je me suis dit, je vais pas tricher, je vais lui prêté beaucoup de mes caractéristiques et du coup, sans doute, aller vers sa ou ma profondeur, puisque je crois qu'on va chercher ensemble. Et oui, il est très... Je pense qu'il est il est bienveillant, c'est-à-dire qu'il est très curieux. Ça, je crois que c'est deux caractéristiques que j'ai. Il est toujours prêt à ouvrir les bras. Et puis il n'est pas héroïque de nature. Il est héroïque par... Alors ça, c'est... moi, j'ai pas eu l'occasion d'être héroïque. Mais lui, il est héroïque par nécessité, par sens des responsabilités. Je veux dire, il va devenir le chef du village et puis l'homme qui sauve les hommes du déluge. Mais par juste par sens de la des responsabilités. C'est pas quelqu'un qui se vit au miroir. C'est quelqu'un qui a besoin des autres et qui essaye d'apporter aux autres.
C'est un peu vous tout ça.
J'espère. En tout cas, c'est comme ça que je me projette dans le monde. J'ai aussi mes défauts. Et je pense que Noam les a aussi. Il a beaucoup d'impatience. Il a souvent de l'impatience. Et puis, il a des révoltes. Parce qu'il est... Mais en même temps, tout en étant impatient, il est capable d'avoir des extases devant la nature, des extases devant le ciel. C'est aussi moi. Je peux avoir un immense souci et en même temps être capable de m'arrêter pour ne plus avoir de soucis. Par jouissance existentielle.
Vous êtes heureux de la couverture, effectivement, c'est vraiment le paradis perdu. On voit des lions, des zèbres, des perroquets, ce ciel bleu. C'est typique de cette représentation que l'on a tous un peu en tête du paradis.
C'est curieux. Hein,
on a
curieux.
Tous cette image-là. Pourquoi ?
Dès qu'un bébé naît, il est déjà nostalgique. Il a déjà perdu quelque chose. Alors, est-ce que c'est le souvenir du ventre maternel? Est-ce que c'est dans ses gènes les souvenirs de ses ancêtres qui pourraient être là? On ne sait pas. Mais moi, ça m'a toujours fasciné qu'on ait tous une projection d'un paradis perdu. Alors moi, le paradis perdu dont je parle, c'est un rapport à la nature. C'est pas une nature, parce que la nature, on peut encore la trouver aux endroits où il en reste, sur cette planète, mais c'est un rapport à la nature, une spiritualité, finalement, une façon d'habiter spirituellement la nature. Et nos ancêtres avaient trouvé une forme d'équilibre avec la nature, c'est-à-dire que nos ancêtres pensaient que tout avait une âme. Ils étaient animistes, comme on dit. C'est-à-dire que l'homme n'avait pas le privilège de l'esprit, de l'intelligence et de l'émotion. Il y avait des âmes partout, des démons et des esprits. Le ruisseau avait une âme. Le être en face de moi avait une âme. Le ciel, l'ouragan, la plaine, le vent. Ça nous paraît naïf. Ça nous paraît aussi magnifiquement poétique. Mais je trouve que, au-delà de cette naïveté, il y a une vraie sagesse. C'est-à-dire qu'il y a une humilité. Nos ancêtres avaient un rapport humble à la nature. Ils ne pensaient pas que l'espèce humaine était une espèce distincte. Donc encore moins supérieure. Et le processus de domination de la nature et de domestication de la nature, d'hominisation de la nature, n'était pas encore en marche. Il va se mettre en marche dans la période que je raconte, oui. C'est-à-dire dans le passage à la sédentarité, et quand l'homme devient maître de son histoire après le déluge. Et donc, cette modestie est une sagesse écologique qui nous parle aujourd'hui où nous avons une telle angoisse écologique.
En cela, votre roman historique, Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes un peu lanceur d'alerte avec ce roman.
Oui, parce que mon personnage, Noam, au début du livre, se réveille dans une grotte. Mais ce n'est pas une grotte du néolithique, c'est une grotte aujourd'hui. Il se réveille au Liban, à Beyrouth. Le Liban qui est la scène de tous les conflits du monde, depuis toujours. L'otage aussi de tous les conflits du monde. Et il se réveille dans ce magnifique Liban et il découvre notre monde d'aujourd'hui, au 21e siècle. Et il est pris d'angoisse parce qu'il sent une atmosphère de fin du monde. Alors comme il le dit, la fin du monde est une histoire sans fin. Dès qu'il y a eu des hommes, il y a eu des récits sur la fin du monde. Nos ancêtres aussi, à toutes les époques, on a produit des récits. Mais là, il y a une différence aujourd'hui, c'est que ce n'est plus Dieu qui va lancer le déluge ou les dieux qui vont se fâcher contre les hommes. Ce n'est même plus la nature qui va s'en prendre à l'homme. C'est l'homme qui s'en est pris à la nature. C'est l'homme qui s'en prend à l'homme. C'est l'homme qui est sans doute capable, en ce moment, de peut-être de rendre impossible sa survie sur la Terre. Et donc, c'est un phénomène totalement nouveau dans toute l'histoire du monde, cette prise de conscience mondiale du fait que peut-être l'homme est allé trop loin. Alors, mon héros, Noam, se réveillant dans ce monde, se dit qu'est-ce qui s'est passé ? Et il a envie d'écrire ses mémoires et il nous les livre. C'est le gros du livre, c'est le début du livre, de ce gros roman, c'est-à-dire comment l'homme a fini par croire qu'il avait ce statut d'exception. Comment s'explique l'enflure humaine et le fait que la planète est juste devenue une anthropocène ?
Alors, vous êtes chrétien, Éric Emmanuel Schmitt, bien que né dans une famille athée. Bon, votre mère est devenue par la suite agnostique. Vous avez eu une révélation dans le désert. Hein, vous la racontez, cette révélation dans
La nuit de feu.
La nuit de feu, voilà, c'était il y a quelques années. Vous étiez venu à RFI pour nous la raconter. Une nuit donc perdue dans le hogar. Et cette nuit, finalement, de feu, bon, voilà, vous a fait découvrir en tout cas la foi. Et puis après, vous êtes approché du christianisme. Alors, est-ce que vous estimez, parce que c'est souvent le tort qu'on attribue aux religions, c'est d'avoir finalement, surtout au christianisme, d'avoir maîtrisé la terre, d'avoir voulu maîtriser la terre.
Bah, c'est écrit dans la Bible.
C'est-à-dire,
justement, c'est l'épisode du déluge, c'est l'épisode de Noé, qui s'appelle Noam.
On a bien compris le rapprochement.
Voilà. C'est-à-dire que dans la Bible, tout d'un coup, Dieu est fâché, nous dit la Bible, contre les hommes, et donc envoie ce déluge pour détruire les hommes. En même temps, il détruit tous les animaux. Hein, bon. Mais il y a une élection. Il choisit un homme qui est un homme juste en lui disant... Sauve-toi, sauve les tiens et sauve
ta famille
et sauve les animaux. Mmh. Et Noé prend toutes les espèces dans son bateau et part avec sa famille sur les eaux du déluge. Eh bien, c'est là que l'histoire commence. C'est là que l'histoire humaine commence, c'est-à-dire que Dieu confie les animaux, la nature et la survie de l'espèce humaine à l'homme. C'est à partir de là que l'homme prend en charge son destin et devient le maître, même si au-dessus de lui, il y a un autre maître. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce moment du déluge, parce que c'est le début de l'histoire. L'homme est en charge.
C'est là une sorte de rupture dans la...
Complètement.
C'est une rupture.
C'est une rupture qui autorise l'homme à penser qu'il est supérieur et à tout réguler.
Il y a quand même un certain nombre de parallèles, si je puis dire, avec la Bible dans votre
Beaucoup.
Roman. Énormément. Il s'est très inspiré de la Bible.
Bien sûr. C'est-à-dire que la folie de mon roman, c'est de raconter un récit qui aurait inspiré la Bible. Et que la Bible aurait transformé.
Vous ne seriez pas un peu mégalomane?
Non, c'est pour produire du sens, en fait.
Bien sûr,
pour montrer comment les hommes interprète les événements. Voilà. Parce que La Bible, c'est une interprétation d'un événement qui a sans doute eu lieu, qui était un déluge. Parce que maintenant, la science montre qu'il y a eu un déluge dans le bassin méditerranéen. Simplement, après la période glaciaire, effectivement, la Méditerranée est remontée de 140 mètres. Et donc, elle a envahi les plaines ukrainiennes et elle a formé la mer Noire. Puisqu'on a trouvé au fond de la mer Noire des fossiles lacustres.
Donc d'eau douce, oui.
D'eau douce, oui. Voilà. Donc, il y a eu un déluge qui n'a pas été universel, mais il y a eu un déluge dont la Bible fait trace. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment l'homme interprète les événements. Et donc, la Bible va être un compagnon constant de tous ces romans, puisque je vais montrer comment c'est une certaine interprétation des événements.
Alors... L'immortalité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immortalité, notamment à travers le transhumanisme. Bon, Noam, finalement, il souffre, lui, de cette immortalité.
Bien sûr. C'est un fardeau. Bien sûr, au départ, ça peut représenter quelque chose de très joyeux, de se rendre compte d'abord qu'on ne vieillit pas, puisque c'est d'abord ce dont il se rend compte,
oui.
Parce qu'il reste dans ses 25 ans. C'est mieux que de rester dans ses 99 ans. Mais en plus, il va découvrir effectivement que c'est plus que ça. C'est un fardeau, oui, pourquoi ? Parce que ça l'isole. L'immortalité, c'est une solitude radicale d'un individu au milieu des autres qui sont mortels. Qu'est-ce qu'une histoire d'amour qu'on ne peut pas vivre en vieillissant ensemble ? Qu'est-ce que c'est que d'être père si un jour votre fils vieillard meurt dans vos bras ? C'est ce qui arrive à Noam et c'est ce qui va le désespérer. En plus, supprimer la mortalité, c'est changer le sens de la vie. Car nous avons reçu la vie pour la donner, pour la transmettre à notre tour. Et là, lui, on va le voir à travers tous les volumes, Il a été capable de transmettre la vie à un moment, mais le sera-t-il encore après? Parce que l'immortalité, ça supprime la naissance. Un monde immortel est un monde où l'on ne naît plus. C'est absolument une chose impensable. Et c'est pour ça que le transhumanisme me paraît un mouvement purement idéologique, même s'il témoigne des progrès de la science et qui, ça, sans doute, ça va nous aider à vivre un peu plus longtemps et un peu mieux. Mais le transhumanisme est véritablement une utopie, mais pour moi une utopie mortifère, une utopie porteuse de mort, parce que c'est refuser la condition humaine. Et je crois que le travail d'un homme, c'est d'apprivoiser la condition humaine et de concevoir qu'avec le don de la vie, on a reçu le don de la mort. Mortel et vivant, c'est exactement synonyme. C'est les deux faces d'une même étoffe. Et donc, il faut chérir la vie comme il faut chérir la mort, puisque c'est par la mort que la vie continue, que la vie se transmet. Voilà, moi, ce mouvement transhumanisme me paraît vraiment une sottise scientiste.
Vous avez fait ce travail pendant des années. Vous êtes abouti à cette conclusion que finalement la mort était bon quelque chose qu'on devait inévitablement accepter.
Oui, je pense que j'écris aussi ce livre pour apprivoiser ma mortalité et peut-être permettre aussi aux lecteurs de le faire.
Vous êtes au clair vous avec votre mort?
Ah oui, bah c'est-à-dire moi je ne sais pas ce qu'est la mort. Et puis en plus comme j'ai la foi, j'ai confiance. Puisque la foi, c'est pas un savoir. Je ne sais rien de plus que quand je n'avais pas la foi. Mais j'habite l'inconnu d'une façon différente. J'habite l'inconnu de la mort, non plus avec angoisse, mais avec espérance. Pour moi, la mort, je réponds toujours, ça sera forcément une bonne surprise.
La pandémie actuelle, bien sûr, la mort rôde. Comment qualifieriez-vous ce moment?
Un moment qui nous a fait prendre conscience de... D'abord que notre destin est uni, c'est-à-dire pour la première fois il y a une émotion mondiale. Quand il y avait une guerre, fut-elle mondiale, il y avait toujours des pays où on pouvait se réfugier, où on échappait aux guerres. Ici, non, on peut pas se réfugier quelque part. Il y a une conscience que notre destin est lié, et à mon avis qui accrue aussi la conscience écologique. C'est-à-dire que, comme vous dites, la mortalité rôde, mais c'est ça la conscience écologique. Parce que quel intérêt de penser à la mort? Simplement être de meilleurs vivants et rendre la vie meilleure et encore plus possible. Je crois qu'il y aura des conséquences philosophiques, intellectuelles extrêmement importantes.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Éric Emmanuel Schmitt pour son livre « Paradis perdu ». Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que le fait d'embrasser l'histoire sur toute sa longueur, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, ne vous a pas rendu pessimiste? Et puis aussi, est-ce que ça n'a pas ébranlé votre foi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de malheur dans cette histoire. Il y a aussi beaucoup de beauté, mais il y a beaucoup de malheur. Comment en ressortez-vous de ce côté-là, si je puis dire?
Oui, d'abord, moi j'écris pas pour dire ce que je pense, mais pour le découvrir. La plume est véritablement toujours une aventure, une enquête, une investigation. Et donc forcément, écrire me change, puisque écrire me rend plus certaines problématiques plus aiguës. À un moment, écrire ce gros roman a pas remis en question ma foi, mais l'a fragilisé, effectivement. Et puis après, je me suis rendu compte que non, ça l'a contextualisé.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que moi, vous évoquiez tout à l'heure cette grâce que j'ai eue dans le désert du Sahara, dans le Hoggar, j'ai reçu la foi. C'était pas une expérience religieuse, c'était une expérience spirituelle.
Mystique.
Mystique, exactement. Et donc, j'ai pas reçu le Dieu d'une religion. J'ai reçu le Dieu sans doute de toutes les religions. Et puis après, comme vous l'avez dit, je me suis approché du christianisme parce que. Non pas parce que je reconnaissais ma nuit dans les termes du christianisme, mais parce qu'il y avait quelque chose de plus dans le christianisme. La notion d'amour et la promotion de l'amour comme la valeur essentielle. Donc, tout d'un coup, en écrivant ce livre et en pensant toutes les périodes et en travaillant toutes les périodes de la spiritualité, parce qu'on va traverser les grandes périodes de la spiritualité, là on est dans l'animisme, je vais après parler du polythéisme, puis du monothéisme, puis de l'abandon du monothéisme, etc. Donc ça je ne cesserai de parler de la spiritualité. En écrivant ce livre, je me rendais compte que au fond, Bergson avait raison. Bergson disait que toutes les religions ont le même cœur, le cœur de feu, le cœur mystique. Et que les religions sont juste des manières de dire l'indicible, l'indicible vécu de la foi. Et donc, c'est des manières de dire, c'est des manières de faire, c'est des ritualisations, c'est des manières d'organiser, ce sont des institutions. Et que parfois, à force, ça dérive très très loin du cœur et ça finit par non plus être chaud mais glaciaire. Et je crois que c'est assez juste. Et c'est pour ça que je vous disais, j'ai contextualisé ma foi. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que je l'exprimais dans des termes qui étaient, bon, judéo-chrétiens, car j'appartiens à une culture judéo-chrétienne, et dans une expression philosophique qui vient de la rationalité, qui commence au XVIIe siècle. C'est-à-dire la philosophie du sujet. Et ben voilà, c'est juste, j'ai découvert que ma foi était universelle, ma manière de dire les témoins, mais que grâce à ce travail romanesque, j'allais pouvoir retrouver le feu sous différentes spiritualités.
Vous êtes même passé par l'animisme pendant l'écriture ?
Mais oui.
Vous êtes animiste ? Aussi ?
Fugitivement.
Fugitivement. Wow. Oui. Définition.
Non, c'est je crois qu'il se passe pas une journée sans que j'aille me promener dans les champs et les bois avec mes chiens.
Autour de votre ferme, dans le
Hainaut,
c'est ça ? En Belgique,
c'est ça, vous savez tout.
Et vous avez deux chiens même.
Ouais.
Comment s'appellent-ils et c'est quelle race ?
C'est des Shiba Inu, une race japonaise, et c'est le frère et la sœur, Daphné et la sœur, et Lucien dit Lulu est le frère. Et les plus grands moments de bonheur de ma vie sont souvent toutes ces promenades. C'est-à-dire que c'est le rapport à la nature. C'est-à-dire je réappartiens à la nature. Je salue certains arbres. Je vais les toucher. Dans le livre, je parle de deux arbres qui se sont rejoints par leurs branches, qui sont les deux, parce qu'il y a deux amoureux enterrés et les arbres ont poussé et les arbres se sont rejoints comme les deux amoureux. Et donc Noam voit la force de son oncle et de sa mère qui se sont retrouvés. Mais je passe tous les jours devant cet arbre-là.
Vous parlez aux arbres ?
Ou plutôt, je les laisse me parler. Oui, je leur parle, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je leur dis. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils me disent. C'est la force qui me renvoie, c'est la sagesse qui me renvoie, c'est les ondes qui me renvoient. Donc oui, ils sont animés pour moi. Donc voilà, je suis poétiquement, fugitivement, animiste.
C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes parti vivre à la campagne, en Belgique, mais aussi à la campagne.
Ah bah la campagne, je peux pas m'en passer. Moi, de toute façon, j'ai vécu une enfance mi-citadine, mi-campagne. Et forcément, ma vie est toujours mi-citadine, puisque je vis aussi à Bruxelles et à Paris, et mi-campagne. Alors, évidemment, avec le confinement, c'est devenu totalement la campagne.
Alors, ça ne pointe pas encore dans ce premier tome, Eric Emmanuel Schmitt, mais vous l'évoquiez il y a quelques instants, aujourd'hui, il y a la sécularisation, un monde sans Dieu. Le Dieu est sorti, en tous les cas, en partie. Est-ce que cela explique, selon vous, cette désespérance un peu que l'on peut pointer du doigt ?
Je trouve que c'est grave que Dieu soit parti, parce que l'orgueil ou la vanité humaine ont pris tout le terrain. Il n'y a plus rien au-dessus. Et je vois toujours dans les religions quelque chose qui va vers l'humanisme. C'est-à-dire, les religions, elles ne nous amènent pas toujours à Dieu, mais elles nous conduisent toujours vers un homme meilleur qui dépasse son égoïsme naturel pour aller vers l'altruisme, qui va privilégier la générosité à la jouissance égoïste. Et puis, les religions, elles essayent toujours de créer non seulement du lien entre les hommes, mais de l'humilité en l'homme. Et maintenant, il n'y a pas, il n'y a plus. L'homme est le maître absolu, et il commence à en crever. Et alors qu'on n'a jamais aussi bien vécu qu'à notre époque, qu'on n'a jamais été aussi bien soigné, qu'on n'a jamais vécu aussi longtemps, que malgré tout, globalement, on n'a jamais autant si bien mangé et voyagé avec autant de sécurité, l'homme contemporain déprime. Ben pour moi, c'est par excès d'orgueil. Il s'est donné tellement d'importance que, de temps en temps, quand même, il se rend compte qu'il est tellement gonflé qu'il est creux. Je trouve que les spiritualités nous proposent de nous brancher sur autre chose que notre nombril et que notre creux intérieur. Et les religions, c'est leur définition même, nous relie les uns aux autres et à la nature.
Tandis que d'autres vous diront, les religions, c'est la guerre.
Non, les hommes ont toujours trouvé le moyen de faire la guerre pour des raisons religieuses, pour des raisons de pouvoir, surtout pour l'économie, surtout pour parfois par orgueil, parfois pour des querelles dynastiques, etc. On a l'impression que peu importe le motif, du moment que l'homme fait la guerre, je crois que
c'est en lui en fait.
Oui, plutôt, moi je crois véritablement ça. Je suis très, vous parlez tout à l'heure de pessimisme, oui, je suis individuellement serein, métaphysiquement serein, mais socialement pessimiste. Parce que je trouve que l'homme n'apprend rien de son chemin et de son histoire. Et je suis totalement du côté de la philosophie politique d'Emmanuel Kant, ce grand philosophe du XVIIIe siècle, qui disait que le mal est radical. C'est-à-dire, le mal est à la racine, radix, radical. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il disait que les hommes font de toute façon du mal, se font du mal et font du mal à la nature. Et qu'est-ce qui leur permet tout d'un coup de sortir de la logique du mal? L'excès du mal. C'est donc quand nous dit l'homme ne veut jamais le bien, il cherche le moins pire. Donc il faut des guerres pour que des sociétés des Nations Unies et des ONU se créent. Il faut des catastrophes pour qu'on prenne des mesures sanitaires. Il faut que des centrales nucléaires explosent comme à Tchernobyl pour que tout d'un coup on améliore les processus de sécurité, voire qu'on remette en question le nucléaire. L'homme ne progresse qu'à travers les catastrophes. Donc finalement, ça serait le mal qui serait le moteur du progrès.
Vous êtes historiquement pessimiste ?
Je suis historiquement pessimiste. Je ne suis pas du tout partisan des philosophies de l'histoire optimistes du 19e siècle, genre Auguste Comte d'un côté avec le positivisme, ou Hegel avec sa philosophie de l'histoire qui pense que l'humanité va invariablement vers plus de philosophie, vers plus de paix, vers plus de... Non, je ne le pense pas du tout. En gros, je ne pense pas que l'histoire se fait sans les hommes. Et je pense que les hommes font l'histoire sans s'en rendre compte. À chaque grande invention technique, on ne sait pas ce qu'on est en train de transformer sur la Terre. Je veux dire, quand on invente l'imprimerie, on ne sait pas ce que ça va devenir. Quand on invente l'écriture, puisque je suis en train d'écrire le deuxième tome, on ne sait pas ce que va produire l'écriture. Internet, on ne savait pas.
Oui, ce que j'allais vous dire, voilà. On ne savait pas. Pour le meilleur et pour le pire.
Exactement.
Les deux. Éric Emmanuel Schmitt, à un moment donné du roman, vous abordez en note de bas de page la question de la migration, parce que effectivement votre héros Noam, eh bien voilà, il est dans les migrations, dans l'époque des migrations, il bouge lui aussi. Et là, vous ouvrez effectivement dans cette note de bas de page sur la question des migrants et de la migration.
Tous nos ancêtres étaient nomades. Tous nos ancêtres parcouraient la terre. Nous sommes tous les enfants de migrants. Et puis, même quand on a abandonné le nomadisme, quand nos ancêtres ont cessé d'être chasseurs-cueilleurs et qu'ils sont devenus sédentaires, la sédentarité a changé d'endroit, a bougé sur la Terre, au gré des histoires politiques, au gré des catastrophes naturelles, etc. Alors, moi, c'est vrai que j'entretiens le rêve que nos ancêtres aient déposé en nous une mémoire de ces migrations, parce que je pense que ça nous rendrait moins péremptoires. Quand on pense qu'on est légitime parce qu'on est né quelque part, et plus légitime que l'autre qui arrive sur ce même lieu, on est en train de faire un contresens historique. Outre qu'on est en train de faire une horreur humaniste, on fait un profond contresens historique. Et je crois qu'il faut avoir cette conscience de notre fragilité identitaire, du fait qu'on est forcément fait de plusieurs couches et qu'on est toujours, toujours le descendant de migrants.
Alors, dernière question. au vu de cette saga, bon, c'est le premier tome, mais après les tomes vont être publiés prochainement, donc à l'automne ça sera effectivement
le deuxième tome,
ça sera la Mésopotamie.
La Mésopotamie autour de la tour de Babel,
vous voyez. Autour de la tour de Babel,
là aussi. La Bible sera là.
La Bible sera là, et bien là. Est-ce que vous estimez qu'il y a un progrès dans l'histoire ou pas du tout?
Je pense qu'il y a... bien sûr, des progrès techniques, des progrès scientifiques, des progrès médicaux, mais qu'il n'y a pas de progrès humain. On n'est pas meilleur aujourd'hui parce qu'on boit du Coca-Cola qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle ou que Platon au IVe siècle avant Jésus-Christ.
Que les cueilleurs, les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire.
Exactement.
Nous sommes les mêmes.
Je pense même qu'il y avait moins d'occasions de conflit quand l'homme était nomade et n'avait pas de propriété.
Pas d'enclos.
Parce que j'en parle beaucoup,
oui,
de ça.
Oui, des enclos, oui.
Voilà. Puisque c'est quand même la propriété qui est au départ du principe de l'inégalité, nous dit Rousseau, et je souscris totalement à ça. C'est-à-dire, il y a quand même une humanité d'avant le capitalisme aussi. Et c'est pour ça que j'ai écrit ces paradis perdus. C'est pas un refus du capitalisme. Le capitalisme, il est là, il faut l'affronter.
Bien tempéré, comme le
clavecin. Il faut tempérer, il faut le rendre plus juste, il faut l'habiter d'une façon intelligente, etc., etc. Mais c'est pour dire, l'humanité n'est pas égale à capitalisme. Il y a d'autres façons d'être homme.
Éric Emmanuel Schmitt, je rappelle donc le titre de ce tome 1, Paradis perdu, de cette grande saga de l'humanité, une saga en 8 volumes. Le prochain s'intitulera La Porte du Ciel, donc sur la civilisation mésopotamienne et Babel. Le tome 3 nous conduira dans l'Égypte des pharaons et à la rencontre de Moïse. Le 4 dans la Grèce du 4e siècle avant notre ère et s'intitulera La Lumière du Bonheur. Puis ce sera Rome et la naissance du christianisme. Ensuite l'Europe médiévale. Le tome 7, ce sera le temps des conquêtes avec la Renaissance et la découverte des Amériques. Et le tome 8, celui des révolutions politiques, industrielles et techniques. Merci d'avoir été notre invité.
Merci.
Les sept péchés capitaux, c'est le nom d'une collection aux éditions du Cerf. Ces sept péchés capitaux, c'est-à-dire majeurs, que l'on retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique, racontent eux aussi l'histoire de l'humanité, avec l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Cette recension des péchés a une histoire qui remonte au IVe siècle dans le désert d'Égypte, avec les premiers moines qui pratiquent l'ascétisme. Parmi eux, Évagre le Pontique va établir une nomenclature des passions qui empoisonnent la vie en société. Plus tard, au 7e siècle, le pape Grégoire, puis au 13e siècle, Thomas d'Aquin en fixeront définitivement la liste. Focus avec Mathieu Terrance, écrivain, poète, essayiste sur l'envie, dans sa définition contemporaine et qu'il nomme le ressentiment. Bonjour Mathieu Terrance.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous nous donnerez votre définition du ressentiment, en quoi le ressentiment est, et si j'ai bien compris, la définition de l'envie aujourd'hui. Mais déjà, quelle définition donneriez-vous à l'envie et quelle différence, selon vous, y a-t-il entre l'envie et la jalousie, Mathieu Terrance?
Ah oui, l'envie, on pourrait dire que c'est désirer ce que l'autre a. Ça a longtemps été, disons, puisque mon livre tourne autour de l'idée qu'il y a un nouveau visage moderne à l'envie qui est devenu le ressentiment. Mais disons que l'envie classique, ce serait désirer ce que l'autre a. La jalousie, c'est vouloir garder ce qu'on possède. Bon, il y a un contresens qui s'est fait par glissement sémantique peu à peu entre ces deux notions, et souvent on entend l'envie comme la jalousie. Or, ça n'est pas, si on est un peu pointilleux et soucieux du sens qu'ont les mots, ça n'est pas la même chose. Être jaloux, c'est vouloir garder ce qu'on a. En un sens, l'avare est plus jaloux de l'argent qu'il possède que envieux. Vous voyez la distinction ?
C'est ne pas vouloir partager la jalousie, c'est en aucun cas ne vouloir partager.
Exactement, c'est celui qui possède qui ne veut pas partager, qui ne veut pas perdre. L'envieux, c'est celui qui désire ce que l'autre a ou qui vit comme une violence, un affront, une offense, le fait que quelqu'un d'autre a ce qui lui revient, ce qui devrait être sien. Voilà, je ferai ce petit distinguo.
Et l'envieux a finalement le désir que ce qu'a l'autre, eh bien, il en soit finalement démuni un jour, qu'il en soit séparé.
Alors, effectivement, c'est la conséquence, et c'est là où on arrive à la forme un peu du ressentiment, mais la conséquence pour l'envieux qui n'a pas ce que l'autre possède et qui lui revient, préférera que l'autre soit dépossédé ou souffre même du fait même qu'il a ce qui est comme une sorte d'imposture, et au lieu de vivre sa vie sans souverainement. Voyez, il souffre toujours de ce que l'autre a et voudrait son malheur plutôt que de voir cette situation perdurer.
Ouais, c'est l'histoire du paysan. Il y a une histoire comme ça d'un paysan qui arrive au ciel. Bon, je la fais courte. Et ce qu'il demande à Dieu, eh bien, finalement, c'est que les vaches, il ne demande pas l'argent, il ne demande rien de particulier, mais il demande à Dieu que les vaches de son voisin meurent, crèvent.
C'est ça, ben oui, alors le voilà un homme qui vit absolument dans le ressentiment. Dans mon livre, j'ai commencé le livre par une sorte de panoramique historique sur la question du diable et des différents visages que j'avais l'impression qu'on pouvait avoir vu au diable depuis, disons, on va commencer par les évangiles et la tentation du Christ dans le désert. Ensuite, avec sa forme de la folie, hein, l'hérétisme, et puis sa forme de la vie au fond de l'homme moderne qui serait la fin sécularisée du diable, c'est Monsieur Tout le Monde. En fait, le diable. On voit ça un peu dans Bernanos avec Monsieur Wynne. Et pourquoi je me suis intéressé au diable ? Parce que d'abord, je pense que c'est une bonne manière de regarder le monde tel qu'il ne va pas, en pensant que le mal existe. Et ensuite, en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait la singularité de notre époque moderne. Les deux péchés qui caractérisent le diable, parmi les sept péchés, c'est l'orgueil et l'envie. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à l'envie. C'était une façon de s'intéresser au mal et à la nouvelle figure du mal. La figure moderne de l'envie étant pour moi donc le ressentiment, où on passe là de l'envie de ce que l'autre a à l'envie de ce que l'autre est ou de ce que l'autre fait. Et cette, je dirais, modernisation du péché de l'envie en ressentiment, n'était possible que dans un moment historique qui a vu certaines valeurs d'égalitarisme, mais dans un égalitarisme idéologique forcené, qui serait un peu à l'égalité, ce que l'absolutisme est à la monarchie, qui a vu toutes les populations se comparer et s'identifier entre elles. Pour qu'il y ait envie, en fait, il faut pouvoir s'identifier à l'autre. Si vous ne pouvez pas vous identifier à l'autre pour des raisons de croyance ou d'une vie traditionnelle avec des hiérarchies, des castes ou des ordres, eh bien, vous n'envierez pas celui qui a ou qui est ou qui fait ce que vous ne pouvez pas faire. Mais dès lors que toutes les populations se comparent, s'identifient les unes aux autres, et notre modernité, et l'un des faits de cette modernité, c'est bien que tout le monde se compare à tout le monde. Alors, vous avez là le terrain, l'écosystème idéal pour que chacun envie l'autre. Et je vais plus loin dans mon petit essai, puisque je considère que ne serait-ce que les sociétés de consommation, qui sont très architecturales pour nos vies quotidiennes, fonctionnent sur cette envie, fonctionnent sur le désir que nous nous suscitons les uns les autres, de se ressembler, et donc de consommer, et donc de penser, et donc de vivre un peu tous de la même manière. Alors, quand on n'a pas ce que l'autre a, alors qu'il devrait nous revenir la même chose, eh bien, on éprouve du ressentiment, et on est prêt donc à se venger, ou à ostraciser, ou à vouloir le malheur de celui qui a ce qui nous manque, voilà, ce dont on est privé et qui est vécu comme une injustice au fond.
Thank you.
Avant de poursuivre, Mathieu Terrence, sur justement ce diable contemporain, puisque vous le nommez ainsi, quelques retours malgré tout sur ce qui a fondé la civilisation judéo-chrétienne. Bah, vous dites que effectivement, l'envie est un des paramètres en quelque sorte de la fondation de la société judéo-chrétienne, avec le meurtre perpétré par Caïn.
Oui, c'est un peu un des fondements du sujet en question. Hein. Là, je ne saurais pas sinon être redondant avec l'histoire de Caïn, sinon que il y a plusieurs mythes, mais qui ne se résument pas qu'à la Bible, qui font cas de cette question-là. Hein. Au fond, dès que l'individu a possédé quelque chose, dès qu'il y a eu propriété, il y a eu l'envie. Hein, ne serait-ce que un bétail, un verger, la prodigalité d'un héritage, vous suscitez l'envie de celui qui n'a pas la chose que vous possédez. Évidemment, c'est toujours un peu fétichisé. Ce qu'on possède, la valeur de ce qu'on possède n'a rien à voir avec son prix. Et ce qu'on envie chez l'autre, pour être dans un point de vue plus psychologique, c'est très paré, c'est très investi de fantasmes. Hein. On envie l'autre, on éprouve du ressentiment pour l'autre, en fantasmant ce dont l'autre est investi grâce à ce qu'il possède. C'est pour ça que je voyais dans le ressentiment moderne la figure d'une passion triste, hein, qui a évolué vers envier l'autre pour ce qu'il est, non plus pour ce qu'il a. J'ai observé, parce que ça fait partie de mes petites marottes, mais au tournant de notre ultramodernité de ces dernières années, quelque chose qui avait à voir avec le fait que l'envie classique qu'on pouvait affecter des pauvres vers les riches, en un sens, s'est aussi inversée avec ceux qui possèdent, qui peuvent envier ceux qui n'ont rien, mais qui ont, par exemple, des idéaux ou des principes qui leur échappent et qui les anoblissent, qui leur rendent de la valeur. On a vu un traitement de ceux qui possèdent vers ceux qui n'ont rien, mais qui ont des idéaux, qui avait à voir aussi avec le ressentiment. Ça m'intéressait de penser qu'on était passé d'une envie sur l'avoir à une envie inversée en termes de, bon, pour parler vite, de classe sociale, vers l'être. Voilà.
L'être et l'avoir. Et vous écrivez, oui, Mathieu Terrence, qu'aujourd'hui, alors là, donc je reviens effectivement, comme vous, à la société d'aujourd'hui, ce n'est plus la contribution à un édifice commun qui met en joie, d'ailleurs je rappelle que vous avez écrit un traité sur la joie, mais ce ressentiment qui soude les uns aux autres, ou bien à d'autres moments, qui les met les uns contre les autres, qui les dresse bien les sûr. Uns contre les autres. Oui. Cet édifice commun, c'est ce qu'on appelle le bien commun en fait, c'est ça, hein?
Oui, il y avait un idéal d'une société, dans les sociétés traditionnelles quand même, donc des sociétés dont l'axe architecturant, je dirais, était une croyance ou un dieu, une foi, avec toute une doctrine de dogme, hein, bien sûr, avec était une édification, hein, érigeait les membres de la communauté ou de la société dans un but bénéfique, en un sens, dans un idéal. Voilà. Tout cela a été remis en question. Hein. Je ne voudrais pas être trop rapide, mais des choses ont changé dans la manière qu'ont eu les sociétés de s'instituer. Et aujourd'hui, enfin, on le sent bien, il y a une grande tension. Hein. Il y a une grande tension, il y a quelque chose qui s'est plutôt inversé. Et si, effectivement, les sociétés font corps, c'est plutôt avec des sentiments et des passions tristes. C'est plutôt avec le ressentiment, justement, avec le fait que les uns contre les autres se magnétisent. Et c'est le paradoxe un peu diabolique du ressentiment, c'est qu'il maintient les uns aux autres, mais les uns contre les autres, et non plus les uns avec les autres.
Oui, hein. Vous parlez d'une société de la hargne, du ricanement aussi, hein, du ricanement. C'est oui, plus l'humour, là.
C'est un peu le rire du diable, c'est le ricanement. Hein. On se moque, on se méprise, on est dans la dérision. Dans la dérision permanente, qui nous soulage certainement d'une forme de mauvaise conscience, au fond, hein, de n'être plus capable de grandeur, nous oblige à passer au second degré, en dépréciant ce qui auparavant était admiré. Et donc le ricanement court partout.
En fait. Et pour vous, c'est la mort de Dieu, ça c'est la conséquence aussi de la mort de Dieu?
Oui, je pointe un peu cette date dont on peut parler, car on voit bien des résurgences, on voit bien au fond que l'homme a besoin de croire. Hein. Mais il s'est passé quelque chose avec la modernité que Nietzsche avait pointé en parlant de la mort de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne servait plus aux sociétés à se constituer. Et c'est d'autres choses qui les ont constituées. Alors, pour aller vite, on pourrait dire que nos sociétés occidentalisées ont vu le matériel et l'argent devenir une raison d'être. Dieu étant donnant une raison d'être, l'argent étant devenant une raison d'être. Et l'argent au sens très large, bien sûr. Ce que nous pouvons acquérir fait ce que nous sommes. Eh bien, c'est dans ce genre de société-là qu'on a vu des logiques de ressentiment se déployer, car, comme on l'a vu dès le début avec Caïn et Abel, ce que l'autre avait devenait peut-être une forme d'imposture dès lors qu'on nous, soi-même, en étions floués. L'égalitarisme voudrait que chacun ait la même chose, et dès lors que certains pouvaient avoir plus que d'autres, eh bien, il était paré d'un pouvoir ou d'une place dont on était floué, dont on était spolié, et le ressentiment là, peut naître de cette façon-là. Oui. Dieu, en un sens, permettait à chacun d'être égal sans avoir besoin de posséder la même chose. Or, avec son retrait, on va dire, sa réserve, s'est déchaînée l'idée que c'était matériellement qu'il fallait s'égaliser. Et évidemment, comme on voit bien que les choses n'ont pas été dans ce sens-là et que de grandes disparités de possession règnent et s'accroissent, eh bien, on a vu se démultiplier le ressentiment.
En conclusion, Mathieu Terrence, est-ce que vous estimez que l'Église, à travers cette classification du mal et de toutes ces déclinaisons, donc les sept péchés capitaux, eh bien, a tracé un chemin précisément pour lutter contre ces tendances malheureusement naturelles, humaines?
Alors, je dirais que il y a deux aspects à l'édiction des péchés. Il y a un aspect moral qui est discutable, mais il y a un précepte qui concerne tous les péchés, qui est celui de l'oubris, en fait, de l'excès. Ces péchés sont pointés parce que dans l'excès, ils deviennent une sorte de menace pour la vie en société. Pris au cas par cas et dans la mesure, la gourmandise par exemple, la paresse, le loisir sont après tout humains, trop humains. Mais c'est dans leur excès que se cache le diable, c'est dans la manière dont ils peuvent tourner en une forme de force de mort que les péchés sont pointés. Je crois.
Il peut y avoir une déclinaison mortifère, effectivement, à certains péchés, comme la colère, l'orgueil, effectivement, et l'envie, donc, que vous appelez donc le ressentiment, l'envie versus contemporaine, le ressentiment, donc, un des sept péchés capitaux que vous signez aux éditions du Cerf. Je vous remercie, Mathieu Terrence. Merci.
Merci beaucoup. Merci.
C'est la fin de Religion du Monde. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI, www.rfi.fr, et retrouver des compléments d'informations sur la page Facebook de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Ce lundi sur RFI, de vive voix, Pascal Paré.